en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Patrick de Carolis de l'Académie des Beaux-Arts est avec nous pour évoquer sa réception sous la coupole et sa place au sein de l'Académie des Beaux-Arts où il a été élu le 5 mai 2010. Son installation s'est déroulée la semaine dernière, le mercredi 12 octobre 2011, au fauteuil d'André Bettencourt. L'Académie accueille majoritairement des artistes, mais aussi des hommes comme lui, amateurs d'art, liés à la défense de la culture et des arts au sein d'une section appelée la section des membres libres. Belle formule. Elle a pour mission, avec les peintres, les photographes, les cinéastes, les graveurs et les sculpteurs de l'Académie, d'encourager et de défendre l'art et le patrimoine. Patrick de Carolis, homme de médias, journaliste, qui a publié Bernadette Chirac, Conversation, qui est aussi le créateur et l'animateur de l'émission Des Racines et des Ailes, qui est aussi ancien président de France Télévisions, est écrivain, auteur de deux romans historiques, Les Demoiselles de Provence et La Dame du Palatin. Surprenant, il a pris la plume en 2009 pour écrire Refuge pour tant d'orages, un récit poétique en prose, intime, personnel, sans être pour autant autobiographique, osant un « je » subtil, derrière un « il » en toute transparence. Une distanciation d'équilibriste, touchante, magie d'un texte libre en tout cas. Son parcours éclectique, comme ses aspirations multiples, semble ne pas l'enfermer sous l'une de ses casquettes. Être académicien change-t-il un homme ? Patrick de Carolis, bonjour.
Bonjour, très heureux d'être avec vous et très heureux, très honoré d'être parmi cette compagnie d'artistes. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une section des membres libres, mais j'ai l'impression que tous les artistes de cette compagnie sont libres.
Vous avez été très bien accueillis, vous avez l'air d'être très heureux dans cette compagnie.
J'aime les artistes, me retrouver comme ça parmi les photographes, les peintres, les compositeurs, les graveurs, les sculpteurs, les architectes, c'est un bonheur.
Oui, j'ai oublié les architectes tout à l'heure. En tant que membre de l'Académie des Beaux-Arts, quelle est votre vision de l'art dans la société d'aujourd'hui ?
Difficile en quelques mots, en tout cas je dirais que l'art est une nécessité, c'est l'air qu'on respire, c'est quelque chose d'éminemment nécessaire. Et je crois que tout ce qui peut être fait pour l'art est fait pour le bonheur de l'être humain. Je pense que l'être humain a besoin d'art pour à la fois se projeter dans la vie, dans la société, et peut-être aussi et surtout pour se retrouver soi-même. Je pense que l'art a cette vertu de vous ramener à vous-même, à ce que vous êtes vraiment, à vos émotions intimes, à cet univers intérieur qu'est l'être, et puis à devenir universel. Je m'explique, il est la clé de votre intériorité et de votre universalité. L'intériorité, c'est-à-dire qu'il vous apprend à vous connaître, à aller chercher en vous les émotions, pourquoi vous êtes ému par telle peinture, par telle sculpture. Donc comprendre ce qui vous émeut, aller chercher en vous ces clés-là. Et puis, il est universel, il vous donne ce sentiment d'universalité parce que ces émotions sont partagées, ces émotions peuvent être collectives, et donc à un moment donné, ce collectif-là devient universel. Et c'est ce rapport-là entre l'universalité et l'intériorité qui me plaît et qui m'anime.
Et qui vous touche et que vous faites partager, en tout cas. Comment voyez-vous votre mission au sein de l'Académie, justement, auprès des artistes ?
Ben, c'est la même que celle de mes confrères, c'est-à-dire nous sommes là à la fois pour gérer les biens, les patrimoines de cette académie qui est important, nous sommes là pour nourrir le débat culturel et faire profiter de ce débat-là à l'extérieur. Et puis peut-être que j'aurai un rôle, ou que j'ai déjà un rôle un peu particulier, étant donné que je suis un homme des médias, et donc ma profession est aussi d'être un passeur et que j'espère continuer à la télévision, peut-être un jour à la radio, on ne sait jamais, continuer à être un passeur de culture, à être ce véhicule qui peut faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est l'art, ce que sont les artistes, ce qu'est la culture en général. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai besoin pour la société.
Avec vous, un homme de télévision entre à l'Institut, au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Est-ce un signe de modernité ?
C'est un signe
dans
de c'est un signe, bien sûr, c'est un signe de modernité. C'est avant tout une reconnaissance pour un parcours. C'est montrer, et l'Académie montre avec mon élection, combien cet outil audiovisuel, cet outil télévision peut être essentiel et donc se mettre au service des artistes. Et puis, c'est un élément de la modernité. C'est vrai que c'est la première personne venue des médias audiovisuels qui entre à l'Académie. Je ne serai peut-être pas le dernier, en tout cas je l'espère. Et donc c'est un signe d'ouverture, mais moi c'est un signe qui ne m'étonne pas. Nous avons dans l'Académie des confrères qui sont extrêmement attentifs à la société, extrêmement à l'écoute des mouvements de cette modernité. Donc cette Académie ou les Académies qui constituent l'Institut de France peuvent paraître comme ça très repliées sur elles-mêmes parce qu'elles sont codées, parce qu'il y a une tradition, parce que l'habit vert, parce que etc., mais elles sont d'une attention à la société extraordinaire. Je pense que rien ne nous échappe. Le moindre débat est commenté dans nos assemblées. Donc je crois que c'est très moderne aujourd'hui, le concept même de l'Académie.
L'Académie des Beaux-Arts, en séance, on va dire privée, c'est-à-dire ne sont pas publiques, débat effectivement chaque séance à huis clos de tout.
De tout ce qui touche à la culture, de tout ce qui touche aux arts.
Ça vous a étonné, cette pratique? Parce que ce n'est pas forcément la même dans les autres académies. Il y a également, évidemment, un débat au sein des académies. Mais là, c'est le contenu même de la séance qui est le débat.
C'est notre travail.
C'est votre travail.
Un de nôtres. Voilà. Parce que notre travail étant, à travers des confrères qui sont nommés, de suivre l'évolution et la gestion du patrimoine. Mais nourrir ce débat, réfléchir, rebondir, proposer. On sait très bien, par exemple, nous avons joué un rôle dans l'attribution du tableau de Cranach au Louvre. Nous avons joué un rôle sur l'hôtel de la Marine. Voilà, donc on est attentif, on débat. On ne publie pas forcément
le contenu
de nos débats, mais on sait ce qui s'y dit, on sait ce qui s'y passe et l'influence se fait d'elle-même.
Y a-t-il un point de société que vous aimeriez porter devant vos confrères ou sur lesquels vous souhaiteriez faire quelque chose? Est-ce que c'est trop en amont
Non, j'ai apporté déjà, lors de ces débats-là, des communications que j'ai pu faire à l'intérieur de l'Académie, notamment sur la télévision, sur l'évolution de la télévision, sur la télévision connectée. Voilà, donc on est vraiment au cœur de cette modernité et de l'évolution des médias, par exemple, qui touchent à la vie quotidienne de nos confrères.
Alors, est-ce que culture et télévision, vous êtes quand même la personne la plus experte ici pour que je puisse poser cette question. Est-ce que culture et télévision sont vraiment compatibles et à quel prix? Et quelle culture? Parce que si on pense à un académicien comme Jean Clerc qui pense que la culture connaît aujourd'hui un hiver, est-ce que la culture défend justement cette culture-là ou est-ce qu'il y a plusieurs cultures?
On ne se leurre pas, la télévision c'est pas la culture, c'est un outil. Et c'est un outil puissant qui, s'il est bien utilisé, peut se mettre au service de la culture. Je lisais récemment une étude qui faisait part de l'importance de cet outil télévisuel pour les Français. Et qui
disait
évoqué dans mon discours en disant il faut prendre conscience de ça. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au cinéma. Il y a beaucoup de Français qui ne lisent pas de livres, ou en tout cas pas les livres qu'on espérait qu'ils puissent lire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir d'exposition, qui ne vont pas à l'opéra, etc., au théâtre. Ils regardent prioritairement la télévision parce que c'est leur seul moyen de sortir de chez eux.
La culture doit être partagée.
Voilà, et donc il faut que nous prenions conscience de ça. Et que ce moyen audiovisuel soit un outil indispensable de notre politique culturelle générale pour ce pays. Voilà. Il ne faut pas laisser la télévision dite de service public en dehors de ces préoccupations-là. Je pense qu'on a un devoir, on a des missions, et je pense que c'est très important pour le pays, pour les gens. Vous vous rendez compte que quand on a posé cette question aux Français, quel est le mode culturel que vous n'êtes surtout pas prêt à céder, à voir partir? On ne dit pas le livre, on ne dit pas le théâtre, on ne dit pas le cinéma, on dit la télévision. On ne peut pas se passer de la télévision. Il y a 64% de Français qui, je crois, qui répondent comme cela. Donc, c'est là où on se dit que c'est essentiel. Et c'est essentiel d'essayer de promouvoir les artistes à travers la télévision, d'orienter les projecteurs dans tel ou tel secteur, de faire des émissions intelligentes et intelligibles. Voilà. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire à travers mon métier, c'est de rendre intelligible l'intelligence. C'est pas de dire que le média est intelligent. C'est pas de dire que la création doit automatiquement passer par la télévision. C'est de dire, nous sommes là, en tout cas, cet outil-là doit être au service des créateurs, doit être au service des artistes, doit être au service de l'éducation, doit être au service de la connaissance et du savoir.
Quel regard portez-vous sur l'évolution de la télévision, sur l'évolution des pratiques télévisuelles des jeunes par rapport à la télévision, qui sont peut-être plus attirés aujourd'hui par Internet, par exemple? Internet ne bouleverse-t-il pas tout en termes financiers, des pratiques et des produits à venir?
Il bouleverse beaucoup de choses.
Oui. Quelle est votre vision des choses?
Et il bouleverse beaucoup de choses. Je pense que nous avons tous été surpris, privés comme public, par la rapidité de propagation d'Internet. Mais d'abord, sur Internet, il n'y a pas que des jeunes.
Non.
Il y a de plus en plus de monde. Donc, Internet est aujourd'hui considéré comme un média à part entière. Surtout que ce média va pouvoir migrer prochainement sur votre écran de télévision du salon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait la différence entre la télévision, qu'elle soit publique ou privée, que vous trouvez dite généraliste, que vous trouvez sur votre écran du salon, et puis ces images venues d'ailleurs, ces images que vous pouvez retrouver sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Eh bien, demain, votre ordinateur sera votre écran de salon. C'est-à-dire que vous pourrez continuer à voir un film, une émission de télévision, tout en regardant sur une partie de l'écran, si vous le souhaitez, des images qui viennent de...
Ce qui est déjà le cas, mais là, ça sera, on va dire, accessible pour tout le monde.
Ça sera généralisé.
Ça sera généralisé.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la télévision connectée, c'est-à-dire la télévision historique, hertzienne, connectée au monde de l'Internet. Donc après, le problème n'est pas de savoir si les jeunes sont plus sur Internet ou pas. Le problème sera de savoir ce que l'on met sur Internet.
Bien sûr.
Pour continuer à toucher les jeunes si on veut les intéresser à l'art ou à la culture en général.
Ce que je voulais dire, c'est que les jeunes s'éloignent de la télévision.
Ils ne s'éloignent pas de la télévision, pardon, hein, je devance un peu. Ils ne s'éloignent pas de la télévision, ils s'éloignent de l'outil de la télévision pour aller sur un autre outil.
Oui, parce qu'ils n'y trouvent pas quelle satisfaction, hein. Parce que peut-être qu'en termes de contenu,
mais
ça ne répondait pas, ça
fois,
ne répond plus à leur attente.
À la fois en termes de contenu, mais à la fois aussi en termes de gestion de leur contenu. C'est-à-dire, à un moment donné, le téléphone, c'est le téléphone. Et à partir du moment où vous pouvez mettre de l'image dessus, c'est plus pratique d'aller chercher une information sur votre téléphone parce que vous l'avez en permanence que d'attendre 20 heures rentrer chez vous et aller sur votre écran du salon. Donc c'est un mode de consommation qui change. C'est de la consommation qui évolue. Et donc, il faut que nos contenus migrent eux aussi et s'adaptent à ce type d'outils ou de médias.
Comment voyez-vous la télévision de demain?
Moi, je suis très optimiste de toute façon. Je pense que la télévision de demain ira justement parce que tout ce que vous pouvez regarder sur le net aujourd'hui est de l'ordre de l'instantané, de l'ordre de la recherche immédiate d'informations, de contacts, d'émotions qui rebondissent comme ça d'un internaute à un autre internaute. En revanche, vous allez aller chercher sur un écran plus grand quelque chose de plus qualitatif.
Un plaisir de l'image aussi.
Un plaisir de l'image, un plaisir d'être devant quelque chose qui sublime, qui transcende, qui vous apprend quelque chose sur la durée. Donc, c'est pour ça que je pense que tout ce qui peut être adaptation de livres, de l'histoire patrimoniale, a un avenir certain à condition que ça soit de qualité. Voilà.
Il y a aussi une mutation des espaces de l'art, de la culture et des nouveaux moyens d'expression. Je pense en particulier aux œuvres numériques, parce qu'il y a des artistes qui travaillent avec, avec l'outil Internet, avec l'ordinateur, etc. Il y a une variété déjà très importante de ces différents médiums qui sont rares pour être connus du grand public. Comment cette variété ou ces nouveaux moyens d'expression, comment la télé peut-elle en rendre compte, ou la télé de demain? Quelle télé peut-on espérer pour ces formes d'art nouvelles?
Ces formes d'art, moi je reçois, j'ai une amie qui fait des tableaux numériques.
Oui.
Et elle m'envoie très souvent, je pourrais vous les montrer, tiens, c'est sa dernière composition.
Il y a des galeristes qui ont des artistes.
Et les galeristes, bon. Le problème de cet art, c'est le problème de la duplication. C'est qu'on peut dupliquer facilement. C'est un vrai sujet hein, pour l'avenir de cet art. Mais je pense que le problème de ce type d'art nouveau, entre guillemets, est le même que tous les autres arts. Comment aujourd'hui traite-t-on le théâtre? Comment traite-t-on la peinture, qu'elle soit d'époque ou contemporaine? Comment traite-t-on l'architecture? Bon, voilà. C'est plus les idées qui manquent, voilà. Et c'est plus les passeurs et l'envie et la stratégie, la détermination qui fait défaut, et la possibilité technologique. Je suis convaincu, quand moi j'ai créé des racines et des ailes...
En 97.
Voilà, ça n'existait pas. Quand j'ai dit, écoutez, je voudrais aller à 20h30, je voudrais aller dans un musée, montrer ce qui s'y passe, on m'a regardé avec des yeux écarquillés, en me disant, un musée à 20h30, mais tu n'y songes pas. Mais c'était la façon d'y aller qui était importante. C'était la façon de raconter les histoires et d'emmener le téléspectateur à l'intérieur. Donc c'est ça qui fait défaut le plus souvent. Et donc nous avons besoin de former des talents, former des passeurs et donner envie. Voilà, je pense que la matière est là, il faut le décider et trouver les talents qui vont avec.
Vous avez des projets dans ce domaine-là ? Vous reviendrez à la télévision ? Vous ferez de la télévision connectée, numérique ?
C'est pas possible.
Qu'est-ce que on ne saura pas aujourd'hui ?
C'est pas impossible. En tout cas, je réfléchis beaucoup
à des
nouveaux concepts, à des nouvelles émissions, à des séries. Oui, je m'arrête pas de réfléchir à ça.
C'est quelque chose.
Mais pas de scoop.
Non, c'était pas ça que je vous demandais de toute façon. Mais c'est intéressant de voir aussi comment un académicien, vous êtes très nombreux dans ce cas-là, vous avez plusieurs vies, on va dire. Ça, c'est déjà les artistes ont plusieurs modes d'expression, mais bon, vous êtes un homme de télévision, un grand patron de presse, et puis bon, vous écrivez des livres, et puis vous faites aussi de la poésie. Enfin, vous avez...
Il peut y avoir un débat là-dessus, est-ce que la prose c'est de la poésie ?
Ah, et d'ailleurs, pour faire la jonction, quelle place la poésie à la télévision ? Et comment rendre compte d'un art si proche de l'émotion et des mots à la télévision ou par un ordinateur ? Parce que là, la lecture et la voix... Ce sont des outils formidables. Alors, je ne sais pas du tout comment vous traduiriez ça, cette passion qui est la vôtre
sujet. On se dit comment traduire la poésie à la télévision. On ne se pose jamais la question comment la traduire à la radio.
Non, parce que ça paraît évident. Hein, elle est faite presque pour la voix.
Oui, mais est-ce que vous connaissez des émissions poétiques à la radio ?
Non, mais nous, on lit sur Canal Académie.
Moi non plus.
Sur Canal Académie, nous avons des émissions de poésie et on y lit des poèmes.
Ça, c'est bien.
Et François Cheng, au cours d'une interview, a lu un de ses poèmes.
Voilà. Mais, par exemple, vous voulez que je vous en lise un ?
Ah ben, avec joie. Je sais que vous en connaissez par cœur.
Je connais, alors de mémoire comme ça, le poème sur Arles, le poème sur les Aliscans de Paul Jean Toulet. Vous connaissez ?
Ah oui, oui, alors
dans
les Aliscans,
voilà,
qui est le cimetière de la ville d'Arles, vous êtes né, je vous en prie.
Dans Arles, où sont les Aliscans, quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Quand tu sens battre ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas, si c'est d'amour, au bord des tombes.
Il faut une petite minute
Après,
de silence.
Il faut,
voilà. Il faut des ailes. La poésie est aussi une de vos racines. Quelle place tient la poésie dans votre vie ?
Ah, c'est essentiel. Moi, j'écris de la poésie depuis, depuis l'âge de 13-14 ans. Je me revois encore noircir des pages, mettre mes émotions. C'est un chemin de l'imaginaire considérable. C'est une éducation, la poésie. Ça vous forge l'esprit. Moi, je crois que si j'ai fait la carrière que j'ai pu faire, c'est peut-être grâce, je vais dire quelque chose, une énormité. C'est grâce à la danse, c'est grâce aux collections de timbres que je faisais, et c'est peut-être grâce à la poésie aussi. Et tout ça a un point commun, c'est la concentration. C'est l'aspect, condensé. Vous savez, comme un cuisinier qui est dans sa cuisine, il prépare un plat, il fait une sauce... Il fait une réduction de tout ça. Et la poésie, c'est la réduction de votre pensée. Vous avez une image, vous imaginez une scène, vous lâchez comme ça, sur le vous noircissez votre papier, idée, et puis petit à petit, vous réduisez tout ça. Et in fine, vous avez ce que vous estimez être votre poésie. Et le plus difficile, c'est qu'après, le lecteur, celui qui va prendre connaissance, lui n'aura pas toutes les étapes de la réduction de votre pensée. Et malgré cela, il ne faut pas le perdre. Il faut qu'il ne soit pas égaré et qu'il retrouve vraiment ce que vous avez voulu dire. Et ce condensé de pensée, ça, c'est intéressant. Et je trouve que la danse nous l'a porté, nous l'a donné, parce que c'était extrêmement exigeant.
La rigueur du corps.
Ne pas faire le mouvement diffus, exagéré, mais le mouvement précis. L'image du timbre m'a donné le goût de la concision et l'œil. Et le travail sur le poème m'a donné le goût de la formule, le goût de l'image et l'appétit du mot.
On peut dire que lire, écouter de la poésie, c'est une chose. Écrire de la poésie, c'est autre chose. Vous venez de nous en parler. Écrire en poète, c'est encore autre chose. Mais dans Refuge pour tant d'orages, ça n'est pas une poésie de poème comme on pourrait l'imaginer, classique, avec un recueil, etc. On est dans un récit en prose. Vous n'avez pas encore publié de recueil de poèmes. Vous le ferez ou c'est quelque chose de très intime? C'est une écriture pour vous? Est-ce que vous écrivez la poésie dont vous nous avez parlé pour vous ou pour être lu?
Je l'écris parce que c'est un besoin. C'est une façon de me poser, c'est une façon de me recueillir, c'est une façon de rentrer en conversation avec moi-même. Et puis après, je fais en sorte que ma poésie soit accessible. Je n'écris rien sans me tourner vers mon épouse ou mes enfants pour leur demander « Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ?» ou « Qu'est-ce que tu as compris ?» et pour savoir si ça correspond à ce que moi je voulais dire. Si la poésie c'est du vers, ben, j'en écris, mais ce n'est pas forcément ce que je veux dire. Si la poésie, c'est la poésie de l'image, de la pensée, c'est la chanson du mot, c'est la musique des mots, alors on peut écrire de la poésie en prose.
Ce qu'on a le plaisir de découvrir et de lire dans Refuge pour tant d'orages. Mmh. C'est un très beau texte. Hein.
C'est gentil. Qui a été porté au théâtre d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Au théâtre au Petit Héberto l'hiver dernier, qui est lu aussi dans un CD par Pierre Arditi. Mais à la lecture, le texte, vraiment à la lecture seule, intérieure, on va dire, au fil des pages, on rentre vraiment dans cette poésie. On y rentre facilement, justement, c'est très accessible. Sur votre table en ce moment de chevet ou sur votre bureau, quel livre de poésie?
J'ai un livre de poésie d'un poète palestinien, Mahmoud Darwish.
Oui.
Voilà. C'est un des plus
c'est
grands.
C'est aussi, on va dire, un des symboles des Palestiniens, de leur culture en tout cas.
Ouais.
De la culture.
Mais vous savez, j'ai fait allusion dans mon discours à la poésie et que les artistes étaient là,
oui,
pour nous dire que la terre est trop étroite et le ciel trop petit. C'est,
oui,
exactement ce que j'ai dit.
Mmh.
Et vous avez un livre de Mahmoud Darwish qui parle de cette étroitesse de la terre. Et en même temps, vous avez un grand poète que j'adore et un écrivain qui est merveilleux pour moi, qui est Rainer Maria Rilke, qui dit exactement la même chose avec d'autres mots. Mais vous pourriez prendre un copier-coller, voilà, d'époques différentes, d'origines totalement différentes. Et ça prouve bien que l'artiste nous dit ces choses-là quoi, et que c'est universel.
Bon, j'imagine que vous devez être en heureuse compagnie avec un artiste comme le peintre Jean Cortot qui peint la poésie.
Ah oui.
C'est, ça vous devait être la combler.
C'est le peintre des mots. J'adore cet artiste. J'adore d'ailleurs ce qu'il est et ce qu'il représente. C'est un être exquis, d'une extraordinaire culture. C'est un ami. Et je connaissais Jean Cortot avant de rentrer à l'Académie et j'ai quelques œuvres de lui que j'adore. Voilà. Oui, c'est un grand poète de la peinture.
Vous avez été un homme de puissance, vous avez assumé ses fonctions de président de France Télévisions, mais vous êtes aussi, on vient de le voir, pétri de poésie, de valeurs antiques, puisque dans vos romans historiques, enfin dans La Dame du Palatin, vous avez un faible pour le stoïcisme. Peut-être, enfin je ne sais pas, entre deux mots, pour qualifier votre histoire aujourd'hui, que choisiriez-vous? Retrait, renoncement ou aucun des deux?
Aucun des deux.
Qu'est-ce que vous choisiriez?
L'audace. Je crois qu'il ne faut jamais renoncer à ce que l'enfant que vous avez été a songé devenir. Et même si les routes que vous prenez peuvent vous donner l'impression de vous en éloigner, il faut toujours revenir à l'enfant que vous avez été, à ses rêves, à ses promesses, à ses illusions aussi. Et je crois que c'est ça qui est important, d'être fidèle à soi-même. Donc, pourquoi renoncer au rêve de mon enfance? Pourquoi m'arrêter? Non, je ne renonce pas. D'abord, renoncer à quoi? Je ne sais pas à quoi je renoncerai. Mais voilà, il faut marcher.
Vous nous liriez un passage de Refuge pour tant d'orages?
Oui, ça se situe vers la fin. L'épreuve est la clé de toute libération. Qu'importe le feu du volcan si la lave est fertile. Qu'importe la peur du noir si la nuit enfante la lumière. Qu'importe la houle des saisons si le printemps réinvente la vie. Qu'importe le désordre des mots s'ils nous parlent d'amour. Qu'importe l'hésitation des pas s'ils te mènent vers moi.
C'est la fin.
Et c'est la fin du livre.
Et c'était un très beau livre. Je signale aux éditeurs qui ne vous auraient pas encore lu que tous vos livres sont édités chez Plon. Les Demoiselles de Provence, La Dame du Palatin et Refuge pour tant d'orages. Ceux qui voudraient en savoir plus sur Paulina Pompeius, l'épouse de Sénèque qui vous a inspiré votre roman La Dame du Palatin, peuvent aussi vous écouter sur Canal Academy dans une belle interview. Signalons que vous pouvez écouter sur Canal Academy la retransmission de votre réception sous la coupole. Et enfin, qu'Éric Desmazières a aussi répondu aux questions de notre radio à propos de votre épée qu'il a conçue pour vous. Vous allez nous en dire un mot ?
Oh, rapidement, simplement rapidement. D'abord pour le remercier.
Oui.
C'est un artiste, un graveur remarquable, d'une énorme sensibilité, et je le remercie énormément d'avoir dessiné cette épée, qui était très importante pour moi, puisqu'elle représente un peu les symboles que je voulais de ma vie, que je voulais y retrouver. Il l'a fait avec talent, finesse, amitié, c'était formidable, et on s'est remarquablement entendu sur ce projet-là.
Il y a une formule gravée sur cette épée.
Oui. Qui pour reprend d'ailleurs oui. Le début d'un des passages du livre Refuge pour tant d'orages, qui est « Tout est là en nous ».
Merci Patrick de Carolis.
Merci à vous.